Vous écoutez
RMC.
23h37 en France, il est ici dans le studio américain de l'After 17h37. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur la chaîne YouTube en direct. Vous êtes plusieurs milliers à nous suivre ce soir en direct, comme d'habitude. Donc vous pouvez comme ça regarder derrière nous ce magnifique décor qu'on a, la plus belle vue de.
Ah, en plus ce soir,
la plus belle vue de New York.
Totalement découvert, ciel bleu, c'est magnifique.
Voilà.
Énormément de chance d'être là, c'est vrai.
Voilà. Sublime.
Entre le Chrysler Building et l'Empire State Building, il y a le Shadow Building. C'est là qu'il habite. Hein, donc.
Il n'est pas fini d'être construit.
Le Shadow Building. Il n'est pas le Shadow Building.
Le Shadow, ouais.
Alors, avant de faire notre évaluation du premier tour, j'aimerais quand même qu'on dise un mot un peu plus en avant du Canada et du foot au Canada. On a la chance d'avoir Pierre Barrieux avec nous, qui est un intervenant qu'on connaissait sur RMC déjà il y a quelques années. Je me souviens de Pierre Barrieux avec Alexandre Delperrier à l'époque, par exemple. Bonsoir Pierre.
Bonsoir l'after, bonsoir à tous.
Salut.
Pierre, aujourd'hui, directeur de la performance à la Fédé canadienne, tu as eu une longue carrière ici en Amérique du Nord, tu as aussi travaillé aux États-Unis à différents postes.
C'est ça, j'ai un peu bourlingué, non. J'étais avec l'équipe des États-Unis pendant 3-6 Coupes du Monde, ensuite une carrière en club un peu classique. Et c'est là que j'étais à Leeds avec Jesse avant qu'on prenne la sélection canadienne.
Voilà, avec Jesse Marsh, le sélectionneur. Alors. Il faut qu'on parle un peu plus de cette sélection et d'où viennent les joueurs, parce que moi j'avais dit des choses, je m'étais fait un peu allumé par les Canadiens au début de la Coupe du Monde, on va y revenir. Mais là, est-ce que sur le match de cet après-midi, là, comment est-ce que tu as vécu tout ça et qu'est-ce qu'on dit au Canada?
Alors déjà, moi je suis à Los Angeles, donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit au Canada, mais je suis avec l'équipe, je suis dans le vestiaire. Donc je pense que ça va être la folie au Canada, parce qu'il y avait vraiment une petite fièvre Coupe du Monde qui commençait à prendre, qui avait pris. Avant qu'on soit obligé de déménager aux États-Unis. Donc,
non, justement, vous n'avez pas été trop déçu, excuse-moi, je te coupe, par rapport à cette défaite contre la Suisse qui vous a obligé donc, à vous délocaliser à Los Angeles. C'est vrai que quand on organise cette Coupe du Monde, j'imagine que jouer à la maison, c'est toujours un peu spécial.
Oui, alors c'est toujours le verre à demi vide, verre à demi plein. C'est vrai qu'on aurait aimé rester à Vancouver parce que ça nous faisait 8 jours de plus, récupérer quelques blessés et surtout jouer devant les 55 000 Canadiens. Maintenant, bon, c'est vrai que les joueurs sont pas tellement habitués à ce genre d'effervescence, donc on part ici, qu'on parte aux US, qu'on ait 4 jours de repos et je pense que ça nous a favorisé au niveau physique par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple. Et après, c'est que du bonheur. Et je pense que, bon, entre les fanfests, les écrans joués en Canada, ils vont dire ça par procuration. Ça nous a un peu piqué qu'on soit la première équipe de l'histoire de la Coupe du Monde à être un pays hôte, à ne pas jouer dans son pays, mais bon, vu le résultat aujourd'hui, c'est pas grave.
Un mot sur la performance aujourd'hui. On se disait tout à l'heure que nous, on reconnaît pas trop le Jonathan David qu'on avait parfois vu étincelant avec Lille. Et puis on s'interroge un peu sur Davis, quand même, Alphonso Davis. Alors qu'en est-il? Est-ce que tout à l'heure Max disait c'est un joueur qui a peut-être démarré trop tôt, donc du coup il se retrouve un peu fragile très vite. Sur ces deux joueurs-là, qu'est-ce que tu peux nous dire, Pierre?
Non, alors pour Johnny c'est un peu, il fait beaucoup plus de choses avec l'équipe nationale qu'il faisait par exemple avec Lille ou à la Juve, et donc c'est vrai que c'est un peu difficile c'est quand même notre joueur star, et sa performance aujourd'hui pour moi elle est excellente parce que justement il est au Formule 1, c'est notre meilleur attaquant, c'est notre meilleur milieu de terrain aussi, donc c'est pour lui c'est
il faut regarder le travail de l'ombre et pas que les buts qui marquent.
Sa mission, une de ses missions, c'est véritablement d'être beaucoup dans la multiplication des courses et de l'effort, donc moins dans la finition forcément.
Voilà, c'est le joueur le plus intelligent que j'ai jamais eu dans ma carrière, j'ai pas peur de le dire. Donc c'est lui qui va sentir le danger défensivement, c'est lui qui va revenir. Il y a une action par exemple contre la Suisse juste avant la mi-temps une action anodine, mais dès qu'il voit ça, c'est lui qui sent le danger, c'est lui qui dans la surface fait l'action qui évite à la Suisse de marquer. Donc au niveau replacement, au niveau distribution, au niveau course, il est omniprésent et c'est sûr que des fois il est obligé de dézoner, il n'est pas dans les zones de vérité.
Et comment tu le trouves toi physiquement? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup démarré les matchs avec la Juventus cette année. Là il se retrouve dans une situation où il démarre absolument tous les matchs. Est-ce que tu penses qu'il peut tenir jusqu'à... Évidemment j'imagine qu'il y a une préparation de votre part pour le mettre à niveau, mais c'est vrai que physiquement j'ai le sentiment que moi sur la fin de match il était un petit peu emprunté.
Pareil, c'est un joueur. Bon, on a eu une avalanche de blessures et on avait beaucoup de joueurs qui avaient peu de temps de jeu en club. Donc, j'ai fait une prépa. J'ai fait une prépa, j'espère adaptée. C'est pas la première fois que je fais ça. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va avoir 6 jours. Donc, je pense, j'ai aucun doute sur notre capacité, notre fraîcheur pour le prochain match, surtout après des victoires. Donc, non, j'ai pas trop de doutes. On a bien très bien travaillé. Cette équipe du Canada me rappelle un peu mes équipes des États-Unis. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui viennent en sélection. Et qui sont là pour travailler. Il n'y a pas d'excuse de la saison. Ils savent qu'il y a une grosse compétition et on peut travailler très dur, ce qu'on a fait. Donc je pense que ça va le faire et Johnny sera au rendez-vous. Et en plus, on va récupérer 2-3 joueurs. Enfin, c'est difficile depuis la France de se rendre compte de l'avalanche de blessures qu'on a eues avant la compétition, pendant la préparation et même durant la compétition. Et là, on a récupéré Moïse qui n'a pas du tout joué en Ligue 1 cette année. Ouais. Et donc voilà.
Comment c'est carrément, vous gérez? Parce qu'il revient d'une grosse blessure, hein, on le rappelle, hein, il s'était blessé contre Monaco de mémoire et il s'était fracturé le tibia, qui est un très très bon joueur d'ailleurs, hein, moi que j'ai connu du côté de la MLS de Colorado Rapids, qui pour moi a une marge de progression incroyable et je serais pas étonné de le voir évoluer dans un plus grand club que l'OGC Nice dans le futur. Mais voilà, comment toi tu le gères en tant que... C'est pas facile, hein, quand il revient d'une grosse blessure comme ça, on sait que c'est préparé pour cette Coupe du Monde, mais de le mettre titulaire aujourd'hui, c'était aussi un risque quand même.
C'était un risque calculé, mais on estime que vu son niveau aujourd'hui, il a largement le niveau. Puis il y a le rôle sur le terrain, la performance sur le terrain, mais aussi l'impact sur le reste de l'équipe. Et là, en fait, on a débuté la compétition sans nos cadres. Nos cadres, c'est Moïse Mombito, nos cadres, c'est Alfonso Davis. On a perdu un joueur, Marcelo Flores, sur les croisés il y a 2 semaines au Mexique. On a eu énormément de blessés. Donc là, c'est vrai
qu'il y a la grave blessure de Koné aussi, évidemment.
Évidemment qu'on perd Ismaël et on n'a pas la profondeur de banc de certains clubs, de certaines nations, on va pas se mentir. Donc il faut être là au mental, il faut que certains joueurs fassent du dépassement de fonction et c'est ce qui se passe et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir avec ce genre d'équipe.
Revenons juste 2 secondes sur le cas Joe David. Combien il court dans un match comme ça? C'est quoi sa feuille de stats positive pour vous? Il est au-dessus de 10 km ou c'est quoi l'histoire?
Alors justement, il explose sa feuille de stats quand on compare club par rapport à sélection. Sur le dernier match, il était à 11,9 km. Il était à 700 mètres de high, moi je parle anglais, high speed running. Maxime va comprendre. Il était à quasiment 400 mètres de
les courses à haute intensité, on dit.
Ouais, les sprints à haute intensité.
Non, alors ça c'est entre 20 et 25 km/h, c'est à speed running, donc il avait 700 mètres, il avait surtout 460 mètres de sprint distance, donc ça c'est au-dessus de 25 km/h. C'est pas du tout son profil à lui, mais voilà, il est préparé et puis il s'applique et à la fin ça sort. Aujourd'hui à la fin du match, je discutais avec lui, je dis alors comment ça s'est passé, il m'a dit écoute très bien, à la fin j'ai commencé un peu à fatiguer, mais aucun souci. Donc voilà, c'est.
Et il y a pas de frustration pour un attaquant dans ce football-là qui demande autant à un attaquant parce que c'est censé être le buteur. Nous, on a commencé l'émission. Moi, j'ai dit, c'est difficile vu du. Après, avec les stats, je sais pas comment vous l'évaluez de cette façon-là, mais j'avais du mal à dire qu'il avait fait un bon match alors que vous dites qu'il a fait un excellent match. C'est bizarre quand même cette appréciation-là. En fait, c'est différences. Nous, en fait, c'est quoi la balance entre l'effort que vous lui demandez, le bien qu'il apporte à l'équipe et ce qu'il va perdre dans les zones de vérité de finition? Comment on fait la balance?
T'as raison. La balance, en fait, c'est très simplement qu'il y a un choix tactique qui est fait parce qu'on pense que la façon dont on joue et qui demande énormément de sacrifices, notamment au pressing des attaquants, c'est la façon qui va donner le plus de chances à cette équipe d'avoir du succès. Donc je pense que les joueurs adhèrent, il n'y a aucun doute là-dessus, ils sont convaincus que c'est le cas. Et ce qui fait évidemment qu'il n'y a pas de frustration du tout du côté de Jonathan, et je pense.
D'accord.
Dans la manière dont j'ai déjà évoqué, c'est quelqu'un qui est super intelligent et il comprend ça. Il comprend que pour le Canada et du succès, pour que le Canada gagne des matchs à ce niveau-là, il va falloir qu'il fasse ça et il s'applique à le faire. Et tous les autres aussi. Hein.
Ça veut dire que si vous aviez des joueurs au milieu avec peut-être plus de talent pour garder la balle, on lui demanderait moins ces efforts-là et que peut-être on le verrait plus en zone de finition. C'est une adaptation aux qualités de vos joueurs.
Tout à fait, tout à fait. D'accord. On n'a pas une équipe.
Ça, c'est intéressant, ça.
On n'a pas 20 joueurs. On n'a pas 25. On a 20, 15 joueurs de classe mondiale. Et certains, dont Jonathan, comprennent qu'il va falloir qu'il fasse des choses avec la sélection qu'il ne fait pas forcément avec son club. Je ne veux pas dire des choses qu'il n'aime pas, hein, parce que c'est un attaquant qui aime défendre.
Même à Lille, hein, il défendait beaucoup. Ouais. Hein, c'était quelqu'un qui était très généreux dans l'effort.
Très altruiste, hein. Ouais.
Et c'est vrai. Baptiste, Maxime.
Non, je voulais. Ouais, non, bah, je te laisse terminer sur Jonathan David et après je voudrais te poser une question par rapport à Alfonso David si.
Ouais.
Vas-y, termine.
C'est vrai que, quand on sent qu'on a quelqu'un, peut-être, qu'on a besoin un peu de mettre sur le pied sur le ballon, ben, Johnny va dézoner, ce qui va nous permettre un peu de mettre de fluidité dans le jeu, mais forcément, quand tu dézones, t'es plus à ta zone de préférentiel devant, et, c'est là qu'il faut qu'on travaille les rotations, mais c'est là aussi que le football de club, et vous le savez, c'est pas le football de sélection, donc on a certains automatismes qu'on essaie d'acquérir, mais c'est sûr que c'est pas aussi fluide qu'on le voudrait, mais pour finir sur Johnny, voilà, pour moi, je vous l'ai dit, c'est notre meilleur attaquant, c'est notre meilleur milieu, et oui, effectivement, que si on avait Vitinha au milieu, peut-être que Johnny serait plus devant, et là où on a besoin de lui sur certaines situations.
Maxime.
Moi, je voulais justement qu'on aborde le sujet Alfonso Davies, qui est quand même considéré comme le meilleur joueur canadien de tous les temps. Hein. Tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, par rapport à son profil, par rapport au club dans lequel il évolue, et toi qui est responsable de tout ce qui est cellule performance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans un football qui se modernise, qui change, qui évolue, où est-ce qu'on a de plus en plus de jeunes joueurs? Est-ce que d'un point de vue physique, tu trouves que ces cinq, un joueur comme Alfonso Davies, et il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, commencent leur carrière aussitôt? Est-ce qu'aujourd'hui, Alfonso Davies ne paye pas, justement, le fait d'avoir commencé très tôt, parce que c'est un joueur qui aurait dû normalement être, alors il est titulaire au Bayern de Munich s'il n'avait pas toutes ses blessures, mais c'est un joueur qui devrait être par exemple titulaire au Real Madrid, et aujourd'hui c'est vrai que je ne dis pas qu'il a des carences physiques, le fait d'avoir commencé très tôt, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas avoir une nuance actuellement, en tout cas modérer un petit peu la manière dont on lance nos jeunes joueurs, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même le cas avec beaucoup de joueurs, je pense à Ansu Fati par exemple du côté du FC Barcelone, mais tu en as énormément avec Lamine Yamal qui a commencé aussi très jeune. Voilà, toi d'un point de vue physique, quel est ton regard sur cette perspective actuelle des jeunes joueurs qui commencent très tôt?
On peut légitimement se poser la question. Dans le cas d'Alfonso, je suis pas sûr que ce soit le cas. Je sais pas. Hein, t'as peut-être raison, Maxime. C'est sûr que bon, de toute façon, on peut pas revenir là-dessus. Idéalement, on veut pas non plus trop jouer un jeune joueur parce qu'on sait qu'il y a quand même il y a quand même la croissance qu'il faut considérer. Il y a pas mal de choses à considérer sur pour quelqu'un qui débute et qui est propulsé à un niveau senior et surtout à un niveau mondial. Maintenant, je pense aussi que bon, on a l'exemple en France, dans la semaine Dembélé qui était tout le temps blessé, qui tout d'un coup ne l'était beaucoup moins, qui depuis quelques mois l'est un peu plus. Non, moi je pense que c'est surtout par rapport à des profils de joueurs. C'est des joueurs très explosifs, donc il faut toujours garder un œil sur les ischios. C'est des joueurs qui ont aucune masse grasse, qui doivent être à 3% de masse grasse. Donc là, par contre, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Je sais pas. Par contre, par rapport à mon expérience, c'est vrai qu'on a des joueurs qui ont ce genre de profil et qui ont tendance à avoir des blessures à répétition, notamment au niveau des ischios. Donc Alfonso s'est fait l'ischio. Moi, je regardais le match retour à la maison contre le PSG. Je suis supporter du PSG. Donc je savais qu'il allait rentrer. Et dès qu'il est rentré, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Donc j'ai appelé le coach, j'ai dit Alfonso s'est blessé. Et vraiment que c'était blessé, c'était le 6 mai. Ça rajoutait encore à notre liste. On a fait la rééduque soigneusement. On a pris notre temps en collaboration avec le Bayern. On n'a surtout pas voulu le mettre dans une situation dans laquelle il n'était pas confortable. Pour tout vous dire, il voulait même jouer avant. On a dit non. Parce qu'il a envie de jouer, c'est normal. On dit non, on fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui aussi, je pense que si on allait en prolongation, je pense qu'il n'aurait pas fini le match. On aurait dû certainement l'enlever parce qu'on veut, on pense plus à sa carrière qu'au résultat immédiat. C'est la seule façon de voir les choses, c'est la seule façon d'établir.
Mais donc là, il est toujours un risque, là maintenant, il est toujours un risque où on peut se dire le huitième de finale, il démarre titulaire et il peut y aller plein pot.
Non, on peut pas dire, on peut jamais dire que quelqu'un n'est pas à risque. Maintenant, je suis certain, je pense qu'il n'est pas à risque. Par contre, on peut pas non plus propulser quelqu'un qui joue 20 minutes à le mettre 45 minutes. Il faut une progression progressive, un beau pléonasme. On va voir où il en est, on va voir comment il a vécu aujourd'hui et on va prendre des décisions en tout état de cause entre la fédération canadienne, entre le club fait partie de temps en temps de ces décisions, ce qui peut ou ne pas être le cas dans son cas, mais surtout en fonction de lui. Parce que on veut qu'une chose, c'est qu'il ait une carrière qui maintenant ne soit pas bloquée par les blessures. Et c'est lui qui est au centre de ce projet. Donc et il est bien conscient ici qu'il n'y aura aucune pression de résultats, aucun emballement. On a un plan très très précis et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je pense que si jamais on avait dû aller en prolongation, je suis un peu pas persuadé qu'on aurait utilisé notre changement en prolongation pour qu'il n'aille pas au bout.
Une dernière question, Pierre Barrieux, sur le début de la compétition, j'avais dit bon, bah, le Canada, c'est souvent des joueurs qui ont grandi footballistiquement ailleurs qu'au Canada. Mmh. Et je me suis fait un peu tomber dessus par les Canadiens qui ont dit ouais, mais c'est pas vrai, ils viennent tous du Canada, tu dis n'importe quoi. Bon, quand on regarde un peu le parcours des uns et des autres, bon, bah, ils ont pas évidemment pas tous fait leur carrière de jeunes footballeurs au Canada. Il y en a beaucoup qui sont partis dans les championnats étrangers, qui sont éventuellement revenus. Alors qu'en est-il vraiment?
Alors, moi aussi, j'ai bondi, c'est pour ça qu'on s'est contacté, hein.
Ouais.
Non, parce que c'est, alors après, il faut savoir comment on définit la formation canadienne. Nous, on n'est pas une équipe d'expatriés, de joueurs qui n'ont jamais mis les pieds au Canada. On a des joueurs qui ont commencé à jouer au football au Canada et qui, à l'âge de 12, 13, 14 ans, des fois après, sont partis en Europe, ce qui est à peu près normal pour pas mal de pays au monde. Mais c'est juste qu'au Canada, à l'instant T, bon, il y a trois clubs en MLS, donc il y a trois grands centres de formation. On travaille justement pour que ça s'améliore, pour qu'il y ait plus d'antennes. Ils ont créé une ligue canadienne l'an dernier, pour qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités pour le jeune Canadien de jouer au football et de se développer. Donc c'est pour ça qu'on s'était contacté. Ces joueurs-là ont tous une très grosse fierté, des origines canadiennes.
Un attachement.
Je pense en anglais, désolé. Et donc ils sont fiers justement de. On a fait comme la France a fait avec leur. On a pris la photo du avec leur maillot de premier club et on a fait pas mal d'opérations autour de l'équipe nationale dans les clubs formateurs. Et il y a un vrai travail qui est fait au niveau de la formation au Canada et ces joueurs en font partie, même si au bout d'un moment il faut aller voir ailleurs parce que le niveau est meilleur. C'est un peu moins vrai depuis que la MLS est là, mais on est quand même limité parce qu'il n'y en a que trois véritables centres de formation. Et donc forcément, les meilleurs joueurs vont ailleurs, mais c'est tout à fait normal et c'est pas singulier du Canada.
Pierre Barrieux, merci beaucoup.
C'était très intéressant.
Ouais, on vous souhaite bon courage pour le 8e, hein, face aux Pays-Bas ou au Maroc, donc dans quelques jours. Et encore bravo pour la qualif. Et à bientôt sur RMC.
Merci les gars, bonne soirée.
Salut. Bonne soirée, à bientôt.